Bonjour à tous et bienvenue sur istasia.fr pour notre podcast numéro 9 qui reprend la tradition des bilans critiques du mois écoulé. Nous allons donc parler du mois de janvier 2014 avec les films qui sont sortis en salle, ceux qui sont sortis en DVD, et on va tout de suite commencer par les événements du mois de janvier. On parlera à la fin de ce qui vous attend en février. Alors autour de moi, il y a pas moins de 9 personnes, donc on va faire rapidement un tour de table. Je vais passer le micro puis vous allez juste dire bonjour à tout le monde et qui vous êtes. Je commence par toi Flavien, salut Flavien.
Bonjour.
Salut Marc.
Salut.
Salut Nicolas.
Salut.
Ça va être super galère de passer le micro,
on va pas faire comme ça du tout.
Julien, bonjour.
Il faut parler du côté rouge.
Jérémy, bonjour.
Justin, bonjour.
Elvire, bonjour.
Voilà, c'était l'invité mystère. Donc c'est la première fois qu'on est aussi nombreux autour de la table pour parler de cinéma. Donc nous avons le plaisir d'accueillir à peu près toute l'équipe et de nous présenter à vous. Alors on a sélectionné 3 news du mois de janvier. La première dont on va parler, c'est le trailer des Chevaliers du Zodiac, qui en tout cas, on ne sait pas si ça vous a plu, mais ça vous a intrigué car vous avez été très nombreux à le voir sur le site. Donc c'est Saint Seiya The Movie qui va sortir a priori cet été au Japon, qui devrait avoir une date de sortie en France, qui n'a pas encore été déterminée. On l'a tous vu la bande-annonce, qu'est-ce que vous en avez pensé, Jérémy?
Ça continue dans la Tetsuya nomorisation de l'animation. Ça ressemble à du Final Fantasy, c'est un peu laid quoi, pour dire des choses. C'est pas de très bon augure pour la suite, mais bon, après sur un trailer comme ça, on peut pas forcément juger du produit fini.
On
mais
est très loin du design de Shingo Araki par exemple.
Exactement.
Sur la première série de Saint Seiya.
Voilà, ouais. Là on est plus dans le Final Fantasy quoi.
Et ça fait en même temps, il y a le générique. Même le générique a fait rêver personne. Hein. Celui qu'on attend là, Justin. Est-ce que t'as pas eu un petit peu d'émotion sur...
Ça vaut pas un petit peu Gazus Fantasy quand même, ou un Bernard Minet. Non, mais bon. Et puis il y a un problème d'adaptation, vu qu'ils adaptent la partie des 12 chevaliers d'or. Ça marchait bien en série, vu que ça n'en finissait pas. Ils traversaient chaque maison, il y avait chaque chevalier, ça prenait le temps de caractériser le combat qui durait des plusieurs épisodes, alors que là en un film de 2 heures, bon, je sais pas trop comment ça va rendre quoi.
Flavien, toi, si t'as fait rêver ou est-ce que tu partages les mêmes
non, en fait ça m'a fait beaucoup penser au dernier Albator. En fait j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mode qui se lance justement avec ce côté 3D cinématique un peu PlayStation qui fait penser un peu à Final Fantasy. C'est un peu le meilleur exemple qu'on ait, quoi, qui se rapproche de ça. Et donc voilà, donc c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas d'animation 2D plus traditionnelle et tout, pour ça que ça part dans le tout 3D. Alors après, est-ce qu'il y aura une bonne histoire, j'espère. Voilà, comme disait Justin, c'était le format série était plutôt bien pour ça. Donc là, sur 2 heures, je sais pas trop comment ça va se passer. À mon avis, je pense qu'ils vont tabler sur une série de films, à mon avis, plus que sur un ou deux films, je pense.
Absolument, parce qu'on ne sait pas encore si ça amène une série, si c'est un film qui va être uniquement un film de 2 heures. Il y aura peut-être une suite, une trilogie, enfin pour le Sanctuaire, ça me semble au moins le minimum, quoi. Pour. Et toi, Marc, tu en penses quoi?
Finalement, le trailer dit pas grand chose, révèle pas grand chose de l'histoire. J'espère qu'il y aura toujours des scènes d'escalier, parce que il n'arrête pas de monter les escaliers, donc je sais pas comment ça va rendre en 3D, mais enfin on verra bien. Mais enfin, après la bande annonce est quand même assez pingre au niveau des informations sur le contenu du film. Bon, après à voir quoi.
Mais c'est vrai qu'on sait juste que c'est le Sanctuaire. C'est cette Okeiichi qui s'occupe de la mise en scène, qui avait fait la série Tiger and Bunny, qui commençait plutôt bien, qui est assez bien rythmée, mais qui est un shonen extrêmement classique. Moi, je trouve que ça se répète énormément au bout de 20 épisodes. En plus, la série n'en finit pas, parce qu'il y a une autre saison qui a été commandée, un autre film. Donc voilà, moi aussi je suis assez sceptique par rapport à ça. Mais bon, il y a quand même Pegasus Fantasy qui est là, les marches, je ne m'en doute pas qu'il y en aura beaucoup à monter aussi, même si ça durera moins longtemps sur 2 heures.
Bernard Minet fera les chansons
comme on dit. Et Bernard Minet, comme le dit, ouais, comme le dit Justin. Minet, vous voulez rajouter quelque chose?
Pour conclure un petit peu ce que tout le monde a dit, je dirais que c'est plus un trailer de manière esthétique et graphique, plus qu'une information scénaristique et sur les suites à prévoir. Quoi. Donc voilà, j'ai des doutes, mais en même temps... J'attends d'en savoir un petit peu plus pour vraiment.
Ça dépendra aussi peut-être du succès du film, mais pour l'instant on n'a pas d'informations sur les.
Ouais, mais il y a des preneurs en tout cas sur ce type de projet, parce qu'Albator il a bien marché. Ouais. Donc s'il y a preneurs, il n'y a pas de raison que en tout cas ça va bien marcher au Japon.
Mais encore une fois, en France on va jouer à fond sur la nostalgie.
Ah oui, bien sûr, ouais, comme Albator.
Forcément, on va le vendre comme ça et finalement après.
Mais est-ce que ça va continuer à marcher, c'est ça?
Bah là on est à fond dans cette mode de. Voilà, les trentenaires ils sont en place et
tout ça.
Ouais, voilà. Donc là, la nostalgie, ça marche à fond pour tout, quoi.
Mm-hmm. Et si peut-être ça pouvait relancer d'autres projets, comme il y a le Cobra de Ajak, et
ouais,
ça
intense.
Fait des années qu'on entend parler. Si peut-être le fait que les films marchent en salle, ça pouvait permettre de relancer la machine.
Vaut mieux peut-être plusieurs échecs pour une bonne réussite d'une suite qu'on attend tous, quoi. Que de rien du tout.
Bon, en tout cas, ouais. On verra si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais en tout cas, on est sûr d'avoir une mauvaise nouvelle avec l'annonce de Tom Hardy qui s'est retiré du projet de Takashi Miike lancé par Joel Silver, The Outsider, qui donc ne se fera, alors que c'était un des projets peut-être les plus attendus, il avait été annoncé l'année dernière, donc un des projets les plus attendus de l'année, qui ne se fera certainement pas.
J'ai beaucoup lu sur Eastasia.
Ouais. On vous fait un top 5, un top 3 des news, quoi. Qu'est-ce que vous avez comme réaction par rapport
bah, c'est un peu décevant parce que c'est le premier projet américain de Miike. On l'attendait quand même avec impatience, mais et voilà, vu que Hardy sortir après Miike avec son calendrier de fou furieux ne peut pas porter le projet à terme, donc c'est décevant, quoi.
Apparemment, Joel Silver pense encore faire ce film,
c'est Joel
mais
Silver,
sans Tom Hardy. Et sans Takashi Miike, voilà. Donc je sais pas trop.
Il va engager un yes man, un tâcheron pour faire un film à la limite.
Un Brett Ratner qui va
reprendre. Voilà, exactement. Sauf que il est sur le flic de Beverly Hills 4, je crois. Ouais.
James McTeague, le faiseur officiel de Joe Silver.
C'est ça. Donc ça sent le roussi, quoi, pour ce projet-là, ça sent vraiment le roussi. Ouais.
Et donc Flavien, t'es qui?
Oui, non, c'est juste à part. C'est dommage. Et donc du coup, je veux pas dire plus. C'est dommage parce que. Effectivement, voilà, c'était vraiment le véritable premier film américain, même si Takashi Miike avait participé à une série américaine à l'époque. Master of Horror.
Imprint.
Avec Imprint, voilà. Mais bon, là, c'était vraiment américain. Enfin, c'était lui, vraiment, du côté américain, quoi. Et bon, ben, ce sera pour une prochaine fois, quoi. Je veux dire, c'est pas... Je pense pas que ce soit une occasion de perdu, quoi.
C'est pas la fin du monde, quoi.
Non, mais... Il est tellement occupé à faire 2-3 films par an.
Apparemment, Miike ne veut pas sortir du Japon pour faire ses films. C'est pour ça que la production se faisait au Japon. C'est pour ça que Imprint, il l'a fait au Japon. Mm-hmm. Et même Tsukiyaki Western Django, qui était quand même un western, mm-hmm. qu'il a tourné en anglais, mais uniquement avec des Japonais et au Japon. Donc c'est vrai qu'il a un peu de mal à faire un projet réellement international en dehors du Japon. Quoi. Donc bon, on verra la suite. Hein. Miike cette année n'était pas aux Oscars, ça c'est de la ne sera pas aux Oscars, ça c'est de la transition. Par contre, il y a quatre films asiatiques qui seront. Il y aura Le Vent se lève qui est cité comme meilleur film d'animation, The Act of Killing, le documentaire, comme meilleur documentaire. Grandmaster lui récupère les costumes et la photographie. Et enfin Ritipan avec l'image manquante est sélectionné. Enfin, et dans la compétition pour le meilleur film en langue étrangère. Qu'est-ce que vous inspire cette sélection asiatique aux Oscars?
Je suis pas sûr en fait que Le Vent se lève soit cité dans les meilleurs films d'animation. Je crois que c'est dans les meilleurs films en langue étrangère, mais peut-être que je me trompe. Je sais pas si t'as vérifié l'info.
Tu te trompes.
Ah, peut-être.
Le Japon avait proposé The Great Passage hein, cette année comme film, comme en tant que meilleur film en langue étrangère. Mmh. Donc c'est bien le
Vent se lève. Non, il est face à Frozen et à Moi, Moche et Méchant 2, je crois. Et Ernest et Célestine,
oui. Ah oui, oui.
Qui a aucune chance, mais qui.
Alors que c'est un film magnifique.
Mais Frozen aussi, c'est un film magnifique.
Non.
Oh,
non.
C'est ça qu'il a le développement, c'est ça.
Ouais.
Trop de chansons.
Est-ce qu'on a un beau parcours pour Itipan et l'image manquante, hein, qui pour le coup n'a pas eu de sortie sale, mais peut être le meilleur film étranger de l'année donc pour les Américains, alors qu'on a pu le voir uniquement à la télévision.
Ouais, c'est surtout son prix à Cannes qui a été bénéfique pour lui, quoi. Surtout. Hein. Mais après, il n'y a pas de grande surprise sur la sélection. Enfin, Le Vent se lève, on s'y attendait tous. The Act of Killing également, c'était pas non plus une grosse surprise, quoi. C'est un film qui a divisé, c'est un peu comme The Tree of Life ou quelque chose comme ça. Et tu m'as dit, il y avait. T'es pas d'accord, Victor ?
The Tree of Life, c'est quand même très loin de.
Ouais, non, mais ça a divisé, je veux dire, ça a divisé le public. C'est soit on n'a pas aimé, soit on a aimé, quoi. Donc il n'y a pas d'indifférence, en tout cas. Et le Ritipan, pas du tout. Enfin, pour moi, la mise en scène est très ambitieuse. Et l'histoire, enfin, le sujet est ultra sensible. Et bien mené par un Ritipan au sommet de sa forme, quoi. Et le dernier, tu m'as dit, c'était ?
Le dernier, c'est The Grandmaster, qui a la meilleure photographie.
Et meilleur scénario aussi.
Non, pas meilleur scénario.
Quel scénario ?
Non. Pour la photo, je crois qu'il est toujours avec son photographe français, il me semble.
Oui.
Donc, c'est pas non plus une grande surprise. Et pour le costume, c'est pas non plus un prix. C'est pas le prix qu'on va se souvenir à la fin des.
C'est des prix techniques, quoi.
Ça va faire plaisir évidemment à ceux qui sont nommés et à ceux qui ont gagné, mais pour le public, on va dire, à part les spécialistes et hardcore, quoi, pas non plus marquer la cérémonie, quoi. Mais d'ailleurs, on pourrait poser une question au niveau de l'équipe, quel est votre chouchou dans les quatre, qui mérite pour vous le plus de passer, quoi.
Dans sa catégorie, je pense The Act of Killing, c'est un film qui m'avait marqué personnellement, donc je pense qu'il le volerait pas, quoi, s'il avait le prix. Je crois qu'il l'a eu au Golden Globe, non, meilleur documentaire. Je serais pas surpris s'il l'est, et je pense que ce serait mérité. Et puis si le Miyazaki obtient aussi l'Oscar du meilleur film d'animation, ça serait un petit peu parce qu'on sait que c'est un peu son dernier film.
Qu'il a déjà eu.
Et puis
combien pour Chihiro, c'est sûr, mais après
pour Chihiro, il a eu un ours d'or.
Mais il a eu l'Oscar aussi.
Je suis pas sûr. Je sais qu'il a eu un César aussi.
Oui.
C'est le dernier film, c'est un sacré dernier film aussi. Sur la corruption de la beauté, c'est un film, c'est un peu particulier. Et je pense que je serais pas étonné qu'il l'ait.
Et donc, Marc, toi, quel serait ton film favori parmi cette sélection asiatique aux Oscars?
Je les ai pas tous vus, mais pour le costume, Grandmaster, ça me paraît pas mal. Parce que c'est à peu près un des seuls trucs qu'on peut sauver dans le film.
Ce que j'avais demandé.
Et les ralentis, évidemment. Donc, mais sinon. Au niveau des costumes, c'est quand même bien méchant. C'est possible que ça gagne.
Il faudrait un Oscar des meilleurs ralentis au cinéma. Quoi. Ça pourrait être pas mal.
Hein.
Exactement, ouais. Sauf pour Man of Steel. Un petit peu moins, quoi. Toi, Nicolas, ça serait quoi ton chouchou aux Oscars si tu faisais partie de l'Académie? Tu voterais pour quoi?
Le vent se lève parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le dernier film de Miyazaki et je pense qu'il le mérite un peu pour toute son œuvre. Donc voilà, même si j'aime beaucoup d'autres films en compétition dans les films d'animation, mais celui-là, Miyazaki le mérite quand même. J'aime beaucoup Ernest et Célestine aussi. Voilà.
Et vous pensez vraiment qu'il peut concurrencer La Reine des Neiges, La Reine des Glaces?
Oui, parce que
Frozen, La Reine des Neiges.
C'est un Disney mineur, donc.
C'est un Disney quand même.
Ouais, mais même.
Il a déjà gagné un prix face au Miyazaki.
Justement, les Oscars, ils vont voir ces différences.
Ils
vont compenser, tu vois.
Julien, on parle d'un japonais là. On parle d'un film japonais contre un film de Disney, quoi. Ils vont rien compenser du tout. Ils vont le donner à Frozen.
Mais non.
Peu importe, Disney est gagnant sur tous les tableaux, quoi.
Bah oui, voilà.
Vu qu'il est Disney, mais en plus, il correspond pas du tout au canon américain d'un film d'animation. Sinon, il aurait plus de chances de gagner dans la catégorie des meilleurs films en langue étrangère que dans la catégorie animation, à mon sens. Bon, peut-être que dans quelques semaines, on verra que je dis n'importe quoi, mais
l'avenir. D'ailleurs, c'est quand la date de la cérémonie, Victor, pour nos auditeurs?
Ah,
Disney Weekend de mars,
non ? Je te pose une colle, là. Hein.
Disney Weekend de mars, il me semble.
Bah, c'est le premier week-end de mars, hein. J'ai pas un calendrier sous les yeux.
Bah, ça sera pendant qu'on sera à Delhi, peut-être, éventuellement.
Exactement. On commentera, on fera un podcast des Oscars à Deauville.
En live.
Commenter, hein. En live, là.
4h du matin.
Donc toi, Julien, ça serait quoi ?
Bah, moi, ça serait le Ritipan, avec l'image manquante, pour son côté vraiment très personnel et son choix de mise en scène vraiment très ambitieux et singulier. Voilà, c'est simple.
Une bonne punchline bien condensée.
Voilà.
Parfait.
Bah moi, comme Julien, ça serait le Ritipan parce que je l'avais trouvé quand on avait vu à Cannes et c'était, j'avais versé ma petite larmichette. C'était vraiment, ouais, c'était vraiment un film très émouvant. Et c'est vrai, comme dit Julien, c'est un choix, la mise en scène, le fait de les poupées, etc. Quoi, tout ce qui a un rapport avec l'image, le souvenir, etc. C'est très beau.
Justin ?
Peut-être, bon, même si j'ai pas été complètement convaincu, mais Le Vent se lève quand même pour l'ambition quand même par rapport aux autres films de la sélection pour un film d'animation. Et puis le Wong Kar-wai que j'ai quand même bien apprécié aussi. Et puis, bon,
c'est vrai que t'es un des rares ici à avoir
je l'ai mis dans mon top. Mais pour Wong Kar-wai, vu que ça fait partie des grosses qualités, entre autres, hein, l'esthétique, la photo, effectivement.
On va très bien. Quant à moi, j'attends absolument rien des Oscars, donc j'ai aucune sympathie particulière pour aucun des films, même si j'aime bien les films, mais moins l'Académie. Même si c'est vrai que c'est assez étrange de constater que finalement tous les films sont pratiquement interchangeables dans la catégorie, comme on a parlé du Vent se lève, qui est en meilleur film d'animation, mais qui pourrait très bien être le meilleur film en langue étrangère, tout comme le Ritipan, qui est ton meilleur film en langue étrangère, alors que The Act of Killing est ton documentaire. Donc tout ça, ça semble très, quand même très aléatoire quoi, par rapport à cette classification.
Est-ce qu'il y a d'autres films qui auraient mérité, à part ceux qui ont été sélectionnés, d'après vous ?
Story of Yonosuke, par exemple.
Mais peut-être un film qui a été plus vu par...
Touch of Sin, film chinois, mais vu qu'il a des problèmes déjà de censure en Chine, ça, voilà, il y a un choix politique qui serait quand même assez embêtant quoi à faire.
Et Snowpiercer peut-être.
Ah oui.
Et Snowpiercer. Ouais. Et là aussi au niveau de la catégorie, ça serait pas évident de la trouver puisque c'est un film en langue anglaise. Et en même temps, il n'est pas sorti sur le territoire américain.
Ah oui,
il n'a toujours pas été distribué par les Weinstein.
Bah, c'est pour ça qu'il n'est pas éligible. Il sera peut-être aux Oscars l'année prochaine, sans doute. Alors.
Merci.
S'il sort, on ne sait pas. Cette année, il y a La Chasse là, qui était sortie pourtant il y a deux ans, et qui est sortie seulement aux États-Unis très récemment. Donc...
Oui, mais La Chasse n'a pas eu de problème de distribution. Ouais. Quoi. C'est juste qu'il est sorti un peu tard, en fait. C'est vrai que c'est assez aberrant de le voir aux Oscars nominé.
Alors qu'il était à Cannes.
Alors qu'il date de 2011, quoi. Après, t'as les sorties techniques, quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
Oui, il y a un calendrier particulier pour les Oscars, justement, entre les dates des sorties dans les pays, les dates des sorties aux États-Unis. Donc,
Exactly.
Donc, nous avons été assez gâtés au mois de janvier, même si on va tout d'abord parler d'un film qui est sorti au mois de décembre, vu que trois films asiatiques sont sortis depuis la fin du mois de décembre. Il y a eu Albator, le corsaire de l'espace, All Boy, qui n'est pas vraiment un film asiatique, mais qui nous a fait penser à un certain film de Park Chan-wook, qui avait une dizaine d'années, et le Miyazaki, sur lequel on a déjà fait un podcast, mais comme ici on est beaucoup plus nombreux que lors du podcast, on va laisser parler les quelques personnes qui n'étaient pas là lors du podcast sur Le Vent se lève. On va peut-être commencer par Albator, le corsaire de l'espace, qui donc reprend le personnage créé par Leiji Matsumoto, en l'actualisant quelque peu sous une forme de reboot préquel. En tout cas, c'est complètement indépendant de tout ce qu'il a pu se faire dans le manga ou dans les différentes séries animées. Est-ce que ça vous a plu cette... Bon, Jérémy, on sait que ça t'a moyennement plu en lisant ta critique.
Bah oui.
Tu prends un peu dépourvu, quoi.
Non, ouais, ça m'a pas emballé. J'ai trouvé ça vraiment très très lourd. Limite plombant, quoi. Je me suis fait chier comme un rat mort, pour être poli. Et ça manque d'épaisseur, ça se prend super au sérieux en plus. Il y a pas de plage de respiration, t'es un peu écrasé par le truc. Mis à part le chara-design de Albator qui est assez réussi, c'est vraiment le seul truc que je sauverais du film. Puis là, voilà, peut-être le beau message sur la passation de pouvoir. De Matsumoto qui passe un peu le relais à, aux futures générations, etc. Ça, c'est assez mignon, mais sinon, non, c'est, sinon, c'est assez raté quoi, dans tous ces aspects.
Justin, tu partages ces doutes,
hein ? Oui, en grande partie. Donc c'est, mais visuellement, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a des bonnes ambiances, des batailles. Quand même, c'est un bon space opéra, il y a des bonnes ambiances. Mais c'est un peu creux, quoi. Ça se veut très sérieux, mais c'est assez creux. Ça, bah, on sent l'ambition, mais bon, ça va pas plus loin, en fait.
Et à ce côté de vraiment aussi écrire un film en reprenant un personnage qui a marqué l'enfance, même de très nombreux Japonais, écrire vraiment un film pour adultes. Donc il y a peut-être aussi ce côté forcé, en même temps les thématiques de Matsumoto et de la série de Rintaro étaient déjà assez adultes. Hein. Mais là, il s'adresse vraiment à un public plus âgé que les premières séries.
Oui, mais du coup, le scénario est un peu... À ce moment-là, autant prendre une intrigue de la série et puis faire une refonte, la revisiter un peu aussi. Mais là, ils ont construit un scénario de toute pièce qui ne marche pas trop, en fait, même si ça se veut ambitieux. Mais du coup, c'est très inégal, quoi.
Flavien, tu as aimé ou... Est-ce que tu pourrais être le seul ici à défendre?
Non, je partage un peu les mêmes doutes aussi. Il y a de très belles choses, ça c'est clair, en termes de space opéra et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a déjà ce premier aspect, déjà, pour moi, de passer à un truc 2D, à un film en 3D et tout, et d'avoir quelque chose de très sérieux et tout. J'avais un petit peu l'impression qu'il y avait un peu des moments un peu... humoristique aussi dans la série.
Il y avait des personnages un peu plus caricaturaux, un
oui,
peu
voilà,
plus, voilà, qui amenaient une forme.
Voilà, et là, du tout, là, justement, avec cette espèce de 3D lisse et tout, qui fait un petit peu froid, rigide et tout ça, donc ça tranche vraiment avec la série d'antan, quoi. Et donc, voilà, donc on suit un peu les événements et tout, et c'est vrai que ça prend un petit peu de temps quand même, il faut dire. Voilà, et après, il y a quelque chose sur la passation de pouvoir aussi dans le. Dans le film qui est très qui est pas mal, donc qui augure, donc on imagine un second long métrage ou peut-être un troisième encore, mais voilà, mais c'est vrai que c'est pas l'adaptation sublime, je sais pas qu'on pourrait imaginer.
Après, enfin moi j'ai plutôt bien aimé le côté très actuel du film. C'est vrai qu'ils reprennent pas du tout les enfin voilà ce qui a été fait avant. Il n'y a plus du tout l'espèce de mélancolie poétique qu'on pouvait avoir dans les années 70, début des années 80, pour un réalisme un petit peu désenchanté, qui va avec le côté très mécanique, très froid du film, et alors qui est un peu décevant, parce qu'effectivement, on ne retrouve pas du tout ce qu'on a vu quand on était enfant, cette espèce de nostalgie, cette mélancolie. Mais qui s'adapte plutôt bien à l'époque et aux problématiques de l'époque. Moi j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait du personnage d'Albator, notamment sur le dernier acte du film, dont je ne vais pas parler ici. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus d'ambiguïté dans le personnage qui ne se bat pas voilà, pour la liberté, qui a forcément raison et qui va forcément gagner. Mais le personnage est un peu plus complexe que ça. Ils arrivent à en faire autre chose qu'une parabole juste révolutionnaire. Et il montre aussi les failles de cette révolution par rapport à l'époque actuelle. Et dans ce côté-là, même si c'est incompréhensible pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais il y a quelque chose d'assez intéressant sur le final.
Mais il montre les failles du perso, ok, c'est assez original de montrer vraiment un perso un peu ambigu, mais le truc c'est que c'est super démonstratif et c'est super explicatif. Les longues tirades, on dirait un nana où le mec t'explique, là j'ai fait le plan pour faire ci, ça, ça, on dirait, voilà, on dirait vraiment les films, les nanars de Godfrey des années 80 où le ninja il t'explique
qu'il a fait pédagogique,
voilà, le plan machiavélique, quoi. Et c'est, ouais, c'est assez gênant ce côté vraiment très démonstratif, quoi.
Moi j'aime bien qu'on m'explique, en fait.
Mais là le problème c'est que ça prend tous les atours d'un blockbuster américain. Avec des préoccupations très japonaises, voilà, l'écologie et tout ci, tout ça. Mais ouais, non, ça ne fonctionne pas vraiment.
Ah, c'est ça, pour rebondir un peu là-dessus, c'est que, en fait, ouais, c'est très démonstratif, ils expliquent tout, mais de l'autre côté, ils te complexifient à mort les enjeux, et du coup, à la fin, ça devient complètement obsolète parce que tu n'en as plus rien à foutre. Au final, ils se tapent sur la gueule pendant 2 heures, alors qu'il n'y a même pas un Pékin qui a pensé à aller retourner sur Terre pour voir si. si ça, il y avait quelque chose qui avait changé ou pas, tu vois. Non.
C'est une zone interdite en même temps.
Ouais,
pas,
mais bon, voilà. Il y a plein d'anarchistes dans l'espace. Il n'y a pas un Pékin qui a essayé de saufiler sur Terre pour voir s'il y avait pas un.
En même temps, ça filme japonais, donc.
Voilà. Merci.
Et au niveau de la créativité, je suis plus partagé que toi. Enfin,
voilà. Non, mais c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est que
l'Arcadie est présenté comme le seul bastion de liberté. Il n'y a pas d'autres, pirates. Tout le monde l'attend quand il arrive. Et en fait, juste les gens ne sont pas enfermés. C'est aussi un film sur la.
Ouais, mais
sur la circulation.
Il y a ça, et puis il y a aussi les mecs qui sont les autres. Le camp opposé, qui n'a même pas essayé de vérifier si ça s'allait mieux. Ils imposent leur politique sans logique, presque.
Ah non, parce que ça les arrange, justement, que les gens ne soient pas informés de la vérité.
Mais ils ne connaissent même pas la vérité. Ils ne savent pas que la Terre est en train de renaître.
T'énerve pas, Nicolas.
Enfin, voilà, quoi. Ça m'énerve. Non, mais c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils complexifient les enjeux à mort et que derrière, ils te réexpliquent, comme 30 fois, 40 fois, sauf que t'en as rien à faire, parce qu'au bout de la 40e fois, tu comprends toujours pas. Histoire de nœud du temps, annulation du temps qui va faire renaître les machins, c'est des conneries, tout ça.
Par contre, on va tous d'accord là, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer la scène de la jeune fille qui est sous sa douche?
Ah oui, non, mais ça, c'est la scène
qui commence à s'envoler en spirale.
Oui, oui. Et ça, c'est la scène la plus inutile de l'année.
À la punchline.
Voilà.
Il y a un peu de fanservice aussi dans le film, donc voilà, cette scène s'explique
uniquement. Son costume, c'est cahier des charges.
Ça, c'est un petit peu gênant, pour le coup, ça m'a plus gêné que le scénario.
Ça te sort complètement du film, et c'est...
En même temps, Aramaki, c'est ce réel-là, et c'est un peu celui qui avait fait Apple Seed, et ouais. Bien, c'est le genre de esthétique. Oui, ouais, c'est un peu son style.
Et est-ce que vous avez vraiment, parce que c'est dans les critiques, le fait que le scénario soit incompréhensible revenait souvent? Et Nicolas, tu disais un peu ça, moi ça m'a semblé un peu exagéré quand même par rapport au film.
Non, c'est assez explicatif,
et bon, si tu t'endors pas entre les scènes d'action, tu comprends quand même à peu près ce qui se passe.
C'est pas que c'est incompréhensible, c'est que c'est surtout, ouais, déjà tu t'en fous, au bout d'un moment,
c'est froid,
le truc c'est que c'est alambiqué en fait, mais pour pas grand chose, parce que finalement, tu pourrais aller d'un point A au point B sans problème, tout en fluidité, alors que là, ils te perdent en explications vaseuses.
Ça fait penser à des scénarios de Final Fantasy dans les jeux. Par exemple, dans Final Fantasy 13-2,
exactement.
Et dans le prochain qui va sortir et qui est sorti au Japon,
exactement.
En fait, c'est un scénario tout à fait basique et qui est complexifié en rajoutant des couches qui ne servent à strictement à rien.
En fait, ça tient
sur
un ticket de métro, mais eux, ils te font les détours et tout qui ne servent strictement à rien.
Il y a des noms assez bizarres, enfin, ils sortent des noms.
Exactement, les noms de grosses corporations.
Final Fantasy.
Voilà, c'est l'influence Final Fantasy, encore une fois.
À tous les niveaux.
Voilà.
Bon, alors le deuxième film avec un scénario qui ne nous a pas trop perdu parce qu'on le connaît à peu près tous par cœur, c'est All Boy de Spike Lee qui donc remake le film de Park Chan-wook. Alors a priori il y a peu de gens qui l'ont vu tout simplement parce qu'il a eu une sortie quasiment technique en salle. Il est resté une semaine voire deux semaines dans quelques salles. Le film a quasiment été boudé pratiquement avant sa sortie tout simplement. A priori, on ne touche pas au All Boy de Park Chan-wook. Il y a beaucoup de gens qui pensaient ça, même quand on a passé ne serait-ce que les premières bandes-annonces sur le site, on a eu des réactions quand même assez énervées. Spéciale dédicace à Yannick, si tu nous écoutes. Hein. Est-ce que le film méritait un tel traitement? Et qu'est-ce que vous en avez pensé, Flavien?
Là, je pense, est-ce que le film méritait un remake aussi rapidement? Je pense. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans? Le film a eu le prix, a été présenté à Cannes. Il a eu le Grand Prix à l'époque. Enfin, moi, je sais que je l'ai découvert là-bas. Ça a été un tel choc que, penser à faire un remake de ce film-là, j'aurais jamais pensé.
On aurait pu l'avoir avant. Il y avait un projet avec Will Smith pendant très longtemps. C'était Will Smith qui devait le faire. Je sais plus si c'était déjà Spike Lee, mais Will Smith, il était déjà dessus. On aurait pu l'avoir bien plus tôt, déjà. Ouais. Dans les tuyaux.
Tiens, parce qu'on s'en rend direct la tendance à le remake s'inverse. Tu vois, maintenant c'est les Américains qui copient les Coréens, alors qu'avant c'était les Coréens qui copiaient un petit peu les Américains. Quoi.
Ah, ça va toujours dans les deux sens, j'ai l'impression. Les spéculations.
Il y a beaucoup plus de remakes de films asiatiques que de films coréens qui remake les films américains.
Oui, là, il y a J'ai rencontré le diable, donc qui va très certainement être.
Pourri.
C'est parti.
On ne peut pas juger.
Ils veulent déjà faire un film PG sorti. C'est les producteurs de Dread, hein, le film qui a été complètement coupé dans tous les sens, juste pour enlever toutes les scènes, les séquences un peu.
J'imagine que Nicolas, t'as pas aimé Oldboy alors.
Non, je le trouve inutile. C'est pas que j'ai même pas aimé, c'est que je le trouve inutile. Au final, ça apporte rien à l'original. Quoi qu'on pense de l'original, d'ailleurs, ça n'apporte rien d'autre, quoi. C'est tout.
Alors, moi, j'ai trouvé que le film était assez inférieur au film de Park Chan-wook, qui est quand même beaucoup plus virtuose dans sa mise en scène. J'ai trouvé qu'il y avait des éléments intéressants par rapport à la carrière de Spike Lee, notamment dans la première partie, qui rallonge vachement la manière dont il filme le New York des années 90, en fait, dans lequel on sent qu'il se sent à l'aise, qu'il se sent bien, il filme la crasse de ce New York-là. On arrive, je crois que c'est 15 ans plus tard dans le film, et on trouve ce personnage qui est complètement déboussolé par rapport à son époque. Alors, c'est des petits points dans le film, mais effectivement, il y a un temps d'adaptation, et on a l'impression que c'est Spike Lee qui dit, voilà, le New York tel que je pouvais le filmer, et voilà le New York d'aujourd'hui que je n'arrive plus à filmer. Donc le personnage est un peu une métaphore, j'ai l'impression, du personnage, de la mise en scène de Spike Lee. Et il y a des petits éléments intéressants par rapport à ce rapprochement qu'on peut faire entre le parcours de Spike Lee, qui est un cinéaste très important il y a quelques années, qui s'est un peu perdu, et le personnage du film qui suit un peu le même chemin, un ancien Golden Boy qui est sur le déclin au début du film et qui se retrouve 15 ans plus tard dans un monde qu'il ne connaît pas du tout. Donc cet aspect-là est plutôt pas mal, plutôt intéressant quand on connaît la carrière de Spike Lee. Après, je vous rejoins sur le reste, par contre, c'est vrai que c'est un peu lourdeau. Il rate pas mal de scènes de passage obligé, on va dire. Enfin, la scène d'action avec le marteau, par exemple, est vraiment inférieure à celle qui avait filmé Park Chan-wook. Donc le film n'apporte pas grand-chose, si ce n'est, en tant qu'amateur du cinéma avec Spike Lee, il y a ce côté un petit peu méta qui est intéressant.
Mais même à ce niveau-là, on sent qu'il a essayé d'incorporer un peu sa patte, par exemple avec le groom qu'on voit dans toute la première partie. Mais même ça, il va pas jusqu'au bout, quoi. C'est juste une scène comme ça, c'est pas... Enfin, voilà, ça apporte pas grand-chose.
Mais peut-être que, en fait, peut-être que ça a été perdu avec le montage initial qu'il voulait faire. Il a peut-être prévu quelque chose d'autre et tout. Parce qu'après, bon, c'est pas mal joué non plus. Enfin, c'est pas...
Non, non.
C'est Charles
de Copley
quand même, le méchant.
Ouais, enfin, ouais.
Charles de
Copley, mais... quand même.
Josh Brolin est excellent, par contre.
Oui, Josh Brolin. Ouais, mais sûr que Charles de Copley, comparé à la classe de Yuji Tae et à l'espèce de colère douce, là... lui, il en fait 40 fois trop dans la.
Non, il se croit à l'opéra,
et voilà, il se croit au théâtre, quoi. C'est ça, c'est un peu ça. Par contre, Elisabeth Olsen, ça, c'est pas mal quand même.
On parle juste du jeu.
Non, mais même dans le jeu, elle est déjà.
Côté plastique.
Non, mais déjà, et puis même, c'est une très bonne actrice. Enfin, je sais pas si vous avez eu Martha Marcy Marlin, je sais plus comment on le prononce. Voilà, c'est ça. C'était très bien. Et puis elle était excellente dans le film. C'est une super actrice.
Non, mais voilà, je pense que en tant que film Oldboy, le Oldboy de Spike Lee, je trouve que ça fonctionne quand même. Et moi je suis pas un grand fan de l'original, mais c'est vrai que c'est moins virtuose, comme tu le dis. Il y a moins de maîtrise dans la mise en scène, etc. Mais je trouve que comme téléfilm de luxe, voilà, quand par un dimanche pluvieux tu te fais un peu chier, tu regardes ça, t'es content quand même. Je trouve que ça fonctionne bien. Josh Brolin, il est assez impressionnant, assez charismatique.
Non, mais Samuel L. Jackson, par exemple, il est complètement ridicule.
Enfin, oui, mais Samuel Jackson est toujours ridicule.
Non,
mais si.
Non, en partant de ce postulat, alors, on pourrait dire que la carrière de Spike Lee est peut-être relancée dans le fait qu'il veut peut-être se refaire une sorte de confiance avec ce remake, ce téléfilm de luxe, mais en prenant de bons éléments comme des acteurs.
Non, j'ai pas l'impression.
Pour ensuite créer peut-être des créations
originales. J'ai pas l'impression parce que c'est. Ouais, excuse-moi. J'ai pas l'impression parce que c'est un film de Yes Man, un peu, quoi. C'est pas le Spike Lee des années 90 où on pouvait le comparer un peu à Scorsese avec un peu cette envie de filmer, cette fièvre, etc., où tu étais vraiment dans l'action, dans les préoccupations des noirs américains, etc. C'était du cinéma engagé, alors que là c'est un remake, il essaye de se l'approprier par petites touches, mais il n'arrive pas. Et finalement,
est-ce que c'est un manque de confiance en soi de la part du réalisateur?
Non, Spike Lee, à mon avis, c'est pas un problème de confiance.
Non, je pose des.
Ouais, non, il est. Non, lui, il est. Il est, il est
Le film aussi a été coupé par les producteurs. Il y a une version qui dure 40 minutes de plus à peu près, donc c'était sur montage. Ça a été remonté. Il n'a pas mis Spike Join comme il le met à chaque film. Donc on peut penser qu'il n'est pas très content du résultat final. Et là, au contraire, il passe sur un projet qu'il finance lui-même avec d'autres fonds, donc un truc complètement indépendant. Et en dehors d'un gros studio comme peut l'être la machinerie d'Universal qui a
derrière. C'est peut-être une bonne chose justement qu'il passe par le côté vraiment purement indépendant. Peut-être que là on verra à ce niveau-là, on pourra constater si vraiment il est à même de faire enfin un bon film ou est-ce qu'il est vraiment sur la pente descendante et c'est la chute définitive.
Mais j'avais bien aimé Inside Man.
Inside Man c'était exactement la même chose, c'était un truc de faiseur.
Ouais, mais pour le coup
ça fonctionnait,
ça fonctionnait.
Ça fonctionnait, mais c'était pas le Spike Lee. c'était pas Do the Right Thing ou un truc comme ça, où c'était vraiment le truc, ça te prenait la gorge et c'était engagé. Même Malcolm X d'ailleurs, qui est quand même un biopic, mais c'est engagé, ça dit des choses, alors que là, c'est du cinéma de divertissement, mais creux, quoi. C'est pas...
Peut-être que, je sais pas, moi j'ai pas vu, le film a été complètement sabré au niveau distribution ici. Je crois que c'était le film qu'il avait fait avant, Miracle à Santa Ana.
Il est pas sorti en France celui-là.
Il est sorti directement en Blu-ray DVD, je crois.
Il paraît que justement,
ça se très bien aussi. Donc, moi je sais pas, quand tu parles de pente descendante, je pensais à Inside Man et ce film-là. C'était.
Ouais, je pense qu'il est plus vers le haut, mais
malheureusement, il y a cette commande.
Non, puis le personnage est aussi un peu ambigu, quoi. Il est. Il est un peu le cul entre deux chaises, il sait pas vraiment où se positionner. Et
il aime bien insulter Tarantino aussi.
Oui, bon, ça c'est il a un gros ego, quoi, ce mec-là. C'est Tarantino et Spike Lee,
son film sur l'esclavage, puisqu'il se dit depuis 3-4 ans, il dit mais à Hollywood, ils savent pas faire des films sur l'esclavage. Je sais pas, est-ce qu'il a parlé il a dit quelque chose sur 12 Years a Slave?
À mon avis, ça doit pas être.
Ça doit être
cotonneux, quand même. Ouais.
Il y a des choses qui prennent à John Bonchain.
Il avait pourtant pas mal descendu, sans l'avoir vu d'ailleurs. Ouais, il est pas mal descendu.
Non, puis il a un ego. En fait, c'est le film qu'il aurait voulu faire, je pense.
Ouais,
mais Spike Lee, il est un peu ambigu, quoi. Il profite du système et en même temps, il crache dessus. Et puis il va voir les Knicks tous les jours au Madison Square Garden. Un drôle de personnage. Ouais.
Le troisième film dont on va parler dans ce podcast, c'est Le Vent se lève. Alors, on a déjà eu la semaine dernière un podcast qui était entièrement consacré à Miyazaki. Donc, on ne va pas forcément revenir très longtemps. Mais autour de cette table, il y a des gens qui n'étaient pas là au podcast et qui l'ont vu. On aimerait bien savoir ce que vous en avez pensé. Julien ?
Bah, oui, on peut en parler. Enfin, moi, j'ai eu en décembre au Forum des Images en avant-première. J'ai vraiment été dès les deux premières minutes du film, pour moi, c'est les meilleurs. Pour moi, c'est plan par plan, que ce soit la musique, le côté rêve, le côté avion. Il y a vraiment la transmission de la passion de Miyazaki. Et j'avais vraiment adoré les deux premières minutes du film. Après, par contre, ça se gâte de plus en plus. J'ai du mal à adhérer à sa passion sur les avions, j'ai l'impression que c'était trop explicatif, peut-être que c'est moi qui ai un a priori dessus, mais j'avais aimé Porco Rosso, et je trouvais que le style assez frontal, anti-japonais, anti-conformiste, vraiment anti-nationaliste, on va dire, parce que ça fait quand même un gros clash là-bas, était quand même assez ambitieux et plutôt bien joué. Par contre, il y avait vraiment le côté un petit peu longueur quand ils sont dans la partie Allemagne, la partie explicatif. Donc je trouvais que ça pouvait se trouver un petit peu trop de démonstratif justement, mais que ça avait quelques longueurs et j'en retiens pas grand chose, ça a mal mûri, ça a mal vieilli, donc je pense qu'il faudrait que je le revoie une deuxième fois pour me faire plus une idée.
On était un peu plus positif la dernière fois en ayant quelques...
Il est pire que nous.
Mais ouais.
Non mais c'est pour ça qu'il faut que je le revoie une deuxième fois,
Flavien, toi tu as aimé?
Oui, enfin c'est, je trouve que ouais c'est un film qui mérite une deuxième vision aussi parce que sur la première en fait on s'attend tellement à revenir dans l'univers de Miyazaki mais on sent que c'est déjà un film un peu testamentaire parce que justement ce que tu dis où c'est un peu la partie explicative en Allemagne et tout ça mais je trouve que ça fait une partie très mélo parce qu'en fait c'est une histoire de corruption de la beauté en fait. La beauté de l'avion ou la beauté de la femme, de la personne qu'on aime. Et
Il a trop donné, ouais. En fait, dans ce film. En faire un petit peu trop. T'as la musique qui est un petit peu répétitive, les explications sont un petit peu trop démonstratives.
Ouais, mais on revient pas.
Le côté un peu trop peu ou trop, vraiment trop, quoi. C'est ça qui m'a un petit peu rébuté à la première vision. Mais...
Ouais,
après, c'est pour ça, il faut que ça mûrit, que je le revoie une deuxième fois. C'est comme un solution, il faut que je le revoie deux, trois fois pour vraiment que ça.
C'est
intéressant ce que tu dis sur le mélo, en fait. C'est vrai, quand
c'est
un vrai mélo. Des années 40, quoi, ou Douglas Fir, des trucs comme ça, c'est un peu. C'est intéressant ça.
Je sais pas. Complètement. Et donc, du coup, ouais, voilà, donc c'est vrai que là, c'est plus tellement un film qui s'adresse vraiment aux enfants, parce qu'en fait, je l'ai vu et il y avait des petites filles à côté. Et je voyais qu'elles tournaient un peu de la tête et tout, et comme ça, tu vois. Donc, c'est clair que voilà, c'est un petit peu plus adulte que d'habitude, malgré toute la fantaisie qu'on peut y retrouver encore et tout. Mais voilà, je pense que c'est un sacré dernier film, en fait, je trouve.
Bon, bah, c'était un bon dernier mot aussi. Nous allons donc maintenant parler des DVD asiatiques marquants sortis au mois de septembre, en commençant par un coffret qui est sorti le 19 novembre 2013. Mais comme on n'a pas pu l'évoquer dans les podcasts précédents, c'est le coffret La Révolution en Kar-Wai, qui reprend à peu près le coffret DVD avec Les Cendres du Temps Redux en plus, mais en Blu-ray. Donc il y a Les Années Sauvages, Les Cendres du Temps, Chungking Express, Les Anges Déchus et Happy Together. Donc c'est sorti chez RP Sélection. Il me semble que Justin, enfin c'est sûr tu l'as vu, tu as fait la critique. Déjà, est-ce qu'il y a un vrai apport Blu-ray du coffret pour ces films selon toi?
Ah bah oui, carrément, vu que surtout Les Cendres du Temps où c'était quand même le DVD était assez catastrophique. Et puis, c'était l'occasion vraiment de redécouvrir toute la recherche esthétique, les ambiances dans le désert, on constate encore mieux de quelle manière ces héros, Zhang Yimou en général, a pas mal pompé ce film, en moins bien. Hein. Et donc là, on apprécie d'autant plus. Et puis, il y a d'autres films aussi, Happy Together, où là aussi toute la recherche, le noir et blanc, les ambiances en Argentine, le défilement du temps, voilà, on savoure, bon, les films restent toujours aussi bons, mais on savoure d'autant plus toute la recherche esthétique. Et puis il y avait pas mal de bonus intéressants aussi avec Christopher Doyle qui intervient pas mal, pour expliquer, donc il y a pas mal des bonus d'époque aussi, donc il y a une masterclass, je crois, à la Fémis de Wong Kar-wai qu'on peut voir en partie, donc les films restent toujours aussi bons, et puis il y a l'apport du Blu-ray, les bonus plutôt intéressants dans l'ensemble.
C'est vrai, c'est un coffret Christopher Doyle, d'ailleurs, parce qu'il y a tous les films qu'il a fait avec Wong Kar-wai, sauf film de Mood for Love.
Oui. Hein, je ne sais pas si c'est le même éditeur, un problème peut-être, ouais. Parce que c'était TF1, je crois, film de Mood for Love, c'était, je crois, c'est un petit, peut-être sans doute, sinon il y avait moyen de faire l'intégrale, effectivement, des meilleurs, mais bon, ça doit être un problème de...
Tu veux gagner de rajouter quelque chose avant de passer au
Je crois que Justin, il a tout dit, hein. Avant, Les Cendres du Temps, c'était le brouillard, maintenant c'est beau, quoi.
Oui, en plus, le Redux, on l'avait déjà vu en salle, mais là, c'est vraiment... on voit les apports beaucoup plus accessibles, beaucoup plus compréhensibles. C'est quand même... ça redécouvre le film. Hein.
Puis c'était le temps où Kar-wai faisait des bons films, quoi.
Bah, il continue, là, non, le Master. Il est revenu, mais
ah bon,
oui.
C'est vrai que je trouve qu'il y a des beaux costumes dans...
je me sens seul.
C'est mérité, il y a une récompense.
Autant son film US, non, pas trop, mais là, je trouve qu'il était quand même bien revenu.
Alors, on va parler d'un DVD qui a été édité le 8 janvier par Kaze, qui est Garden of Words, de Makoto Shinkai, qui en fait est un moyen métrage que Shinkai a réalisé il y a l'année dernière, et que Justin aussi tu as vu, donc comme tu as la parole tu vas pouvoir nous en parler puisque tu as fait aussi la critique de ce film.
Donc là, par rapport au Voyage vers Agartha, Shinkai revient un peu vers les atmosphères qu'on connaît de lui, beaucoup plus intimistes, beaucoup plus introspectives. Donc là, il revisite encore son thème de la distance. Sauf que là, il se renouvelle à nouveau, donc c'est une histoire entre entre un adolescent et puis une jeune femme qui se croisent tous les jours dans un parc. Donc l'adolescent qui sèche les cours et la femme qui est un peu mystérieuse, on ne sait pas trop les raisons pour lesquelles elle se trouve là tous les jours. Donc il observe un peu le rapprochement entre eux. puis donc ils capturent la nature, la matière. Donc c'est d'ailleurs, ils se rencontrent à chaque fois quand il pleut, donc ils sèchent, le gamin sèche à chaque fois les cours au moment où il pleut, donc forcément dès qu'il pleut ils se croisent, donc on voit le rapprochement progressif entre eux, les sentiments, donc on découvrira que donc il y a une différence, là c'est plus la distance mais une différence d'âge, donc vu qu'il avait revisité ce côté distance dans chacun de ses films, donc il y avait les rêves dans La Tour Odéa des Nuages, il y avait la distance géographique dans 5 cm par seconde, et donc là c'est la différence d'âge, et donc il renouvelle à nouveau. Et au niveau esthétique, là, c'est vraiment du haut niveau pour capturer justement l'impact de la nature sur la relation, sur les atmosphères. Donc, voilà.
Non, mais je plus sois ce qu'a dit Justin, dans le sens esthétique, parce que bon, moi-même étais au Japon et le jardin dans lequel ils sont, c'est le
Shinjuku Gozoken. Qui existe vraiment, d'ailleurs.
Qui existe vraiment, et le plan, c'est le même dans ma tête, c'est super. Enfin, je pense pas que graphiquement on puisse faire mieux. Et je trouve que enfin, c'est un cinéaste que je suis quasiment depuis ses débuts, et qu'il y avait peut-être qui redescendait un petit peu avec Voyage vers Agartha, et je trouvais qu'il y a un petit peu de longueur, et là je trouve qu'il a trouvé le juste équilibre à peu près à tous les niveaux, et je laisse la fin à Nicolas.
Bon, moi j'ai bien aimé aussi, j'avais aussi vu Voyage vers Agartha, qui m'avait un peu déçu, mais pour le coup là je trouve qu'il y a une poésie, une qualité qui m'a vraiment beaucoup touché. Et aussi le personnage veut devenir cordonnier, donc il confectionne des chaussures, et donc il y a toute cette poésie par rapport au personnage féminin autour de ça, de confection de chaussures, parce qu'il veut il teste les chaussures à ses pieds, donc voilà, c'est joli, tu vois, c'est
trouver les chaussures à son pied, tout ça,
voilà.
Et non, mais ça rappelle beaucoup de choses, quoi.
Le problème, c'est que pour moi il gâche le plan, enfin la séquence la plus importante du film, c'est bon, je vais pas spoiler, mais voilà, il en fait un peu trop, il balance les violons, voilà, donc voilà, ça m'a un peu gâché la fin, mais bon, ça reste un très joli film, très poétique,
très doux. Une grosse structure de ton où tu perds vraiment, voilà, toutes les envolées lyriques que t'avais,
toute la finesse qu'il y avait avant, voilà. Tu s'envoles un peu avec.
Bah, moi je trouve que c'est au contraire, ça, tout le film est en retenue, tout est en retenue, personne n'ose vraiment dire ce qu'il pense, ça joue que sur les regards, et d'un coup avoir, surtout c'est avec le personnage de la femme qui montre rien du film, et à ce moment-là c'est l'explosion, oui, mais je trouve que c'est bien amené quand même.
Non, justement,
on découvre enfin que...
Je trouve que c'est pas du tout bien amené, parce que ça s'accélère d'un coup.
Parce que c'est une séparation.
Ils sont tout en retenue, voilà, et puis d'un seul coup, ils s'engueulent, elle part, il la rattrape, en 30 secondes, et il y a la grosse musique.
C'est le débordement, c'est
ça. Mais c'est normal.
T'as une crise de nerfs, tu vois, c'est normal là que tout d'un coup, après, tu pars vraiment dans.
C'est surtout la musique, en fait.
Parce qu'en fait, à ce moment-là du film, les personnages sont censés se séparer, donc c'est normal qu'ils ne sont plus censés se revoir ensuite, donc c'est normal que ça laisse exploser un peu
c'est le moment des
les sentiments.
Bon, bah, on va se séparer sur.
T'as bien trouvé le mot, Joyter.
Sur le Voyage à Agartha. Non, puisque nous allons également parler d'un troisième film qui sort cette semaine. En DVD, qui est Droguard de Junito, qui est donc l'avant-dernier Junito, puisqu'il a fait Blind Detective, je comprends toujours, avec Mad Detective, donc depuis qu'il était présenté à Cannes. Celui-ci c'est l'avant-dernier, donc qui est un vrai polar, qui a tourné en Chine mainland. C'est d'ailleurs notre film de la semaine passée. Et Marc, tu l'as vu il y a quelques temps.
Oui.
Tu l'as aimé.
Mais c'est un peu lointain parce que ça fait 2-3 mois que je l'ai vu. Mais j'ai été agréablement surpris. J'ai trouvé que c'était mieux que Blind Detective, qui est un petit peu plus dans la bluette. Mais les bluettes de Junito, ça va, ça passe bien quand même. Et dans Droguard, effectivement, c'est gros polar. Contrairement à d'autres films de Junito, il n'y a pas de grandes scènes de virtuose avec des gunfights ou alors une séance d'escalade sur des façades d'immeubles, mais le film reste quand même bien, l'action est très resserrée, tout est fluide, les acteurs jouent plutôt bien, la mise en scène est impeccable comme presque toujours chez Junito. Et l'histoire est plutôt sympathique, même si c'est quand même une histoire assez basique de trafic de drogue et d'un policier qui doit justement infiltrer un trafic de drogue pour arrêter les méchants. Et du coup, enfin, non, c'est vraiment un très très bon film, bien rythmé. Rien, il y a rien à redire, quoi. C'est pas excellentissime, mais c'est un très bon film d'action.
Il y a quand même une scène, bon, c'est pas une scène d'anthologie, effectivement, parce qu'elle apparaît comme assez naturelle, mais la fusillade finale dure bien 20 minutes, quoi. Enfin, à partir du moment où ça met du temps à arriver, et à partir du moment où il commence à flinguer, ça défouraille plutôt bien, ouais.
Mais à conseiller, en tout cas.
Jérémy, toi, t'étais un peu plus sceptique, hein.
Bah ouais, parce que j'attendais un peu plus de virtuosité, comme tu disais, Marc. Je voulais retrouver les envolées un peu virtuoses de Junito. Moi, j'avais bien aimé Blind Detective, par contre, parce que c'était une vraie comédie cantonaise ou super outré, etc. Donc, j'avais bien trouvé mon bonheur là-dessus. Là, on sent que c'est la production Shin Mainland où là, tous les méchants, c'est des Hongkongais et les gentils policiers, c'est des Chinois incorruptibles. Qui défouraille du méchant à tour de bras. Après, tout ce qui tourne autour des instants de comédie, toute la mise en abîme sur le métier d'acteur, etc., c'est ce que j'ai trouvé le plus réussi dans le film, les scènes avec le fameux Mr. Aha, là, qui rigole tout le temps, etc. Tous ces jeux de personnages qui sont un peu... Ils changent de personnage, de rôle à chaque fois. C'était assez drôle. Après, au niveau polar, ça fonctionne pas tout le temps parce que on sent que Junito, tout ne l'intéresse pas forcément. Il y a des trucs, il expédie ça super rapidement. Les scènes introductives, il s'en fout. Il a envie de passer à l'essentiel, c'est-à-dire le jeu de dupes, etc., entre Louis Kou et l'autre personnage. C'est un bon polar efficace, mais ça manque un peu de personnalité, je trouve.
Oui, à ce côté, on a l'impression qu'il a laissé une bonne partie du film à la seconde équipe,
enfin,
à l'assistant réalisateur qui a tourné tout ça. Ce qui fait que moi, j'ai eu un peu l'impression d'être devant une production de Junito, plus que devant une vraie réalisation, parce qu'on ne ressent pas effectivement cette virtuosité. Il n'y a pas vraiment de moment de grâce, même si tout est très maîtrisé, plutôt bien. Mais il manque cette petite touche qui fait le...
Voilà, le seul truc où j'ai vraiment ressenti un peu une certaine jubilation, c'est vraiment le moment, la scène pompée sur Mission Impossible 4, là, où ils sont tous en train d'échanger leur rôle, etc. Là, j'ai trouvé vraiment qu'il s'amusait, Junito, et qu'il s'éclatait. Et j'ai retrouvé un peu le côté un peu Sparrow, un peu, où c'est un peu, ça virevolte un peu, c'est assez léger. Et après, dès que ça s'enlise un peu dans le truc super sérieux, c'est pas terrible.
Ouais, la scène à la Mission Impossible, là, c'est clairement la meilleure scène du film. Hein, où c'est vraiment très, très, très bien fait. Quoi.
Julien ? Non. Je l'ai vu, mais je suis content. Tu vas être l'opposé de Jérémy, mais en fait, on a le même conclusion. Mais... Enfin, ouais, j'ai trouvé plutôt le côté sérieux était vachement bien réussi. Et c'est le parti comédie que moi j'ai trouvé. Okay. C'est la rupture de ton. J'ai du mal avec le côté trop sérieux et après des instants comédie.
Ouais, tu vas pas aimer Blind Detective alors.
Non, mais j'ai.
Ouais, parce qu'il est lourd pour le coup.
Ouais,
côté comédie, mal avec ce côté-là.
Par contre, les scènes sérieuses, j'ai adoré. Il y avait une scène, je crois, ils sont dans un entrepôt, ils doivent s'évader dans un trou et t'as les deux frères qui affrontent la police, je crois. Et là, je me souviens d'un regard avec le flingue quand il est. Quand il les pointe vers la police, c'est vraiment...
C'est la première scène d'action, ouais.
Ça reste sur la rétine, par exemple. Et la scène de fin, même si elle est longue, tu vois, elle est vachement bien foutue, quoi.
Ouais, mais la scène d'action, c'est pas du Junito, quoi. La scène d'action, c'est pas du Junito, ça fait un peu polar urbain à la Michael Mann, un peu, mais ça fait...
Ouais.
Mais tu sens pas...
C'est pas exilé, quoi.
C'est pas exilé, c'est pas le truc super cool avec les...
Je sais pas, après, j'ai l'impression que c'est une question pas de point de vue, mais c'est qu'on reconsolise par rapport au réalisateur. C'est pareil, par exemple, dans Spike Lee, il faut que nous, on revoie la carrière du cinéaste pour resituer le film. Alors que si on se met dans la peau d'un spectateur qui va regarder pour la première fois un Junito, là, on a un autre point de vue, tu vois.
Sûrement, ouais, mais après, c'est chacun son bagage, quoi. Mais,
Mais
oui, non, mais je suis d'accord avec toi, ouais. Je suis d'accord avec toi. Ça fonctionne, un polar. Si on regarde un polar, ça fonctionne à fond, c'est sûr.
Non, mais c'est la dualité qu'on a entre les points de vue, entre la connaissance et la non-connaissance de la carrière du cinéaste. Quoi. C'est comme si je regardais pour la première fois le dernier Kim Ki-Doo, je me dis, mais c'est quoi ce film? Et alors, en fait, quand je regarde la carrière dans sa généralité, ce qu'il a traversé et tout, je le comprends. Quoi.
Ah ouais, non, c'est clair.
Je pense que c'est un critère.
Ouais, je suis d'accord.
Peut-être que ce film marche d'ailleurs mieux en dehors de la... Si on le prend comme plutôt un polar chinois d'ailleurs, plus ou de Shin Maitland actuel, il est plutôt bon par rapport à ce qui se fait dans la production. C'est un peu décevant de la part de Junito, justement. On attend une signature, en fait, et on ne retrouve pas forcément cette signature dans le film.
Et c'est pour ça que je trouve que plus globalement, tu as une séparation entre la presse et le côté public, parce que le public, lui, va regarder un film sans vraiment connaître le contexte, alors que la presse, lui, va regarder tout ce qui se passe dans la carrière de... Enfin, il va vraiment comparer, il va analyser, alors il va référencer, alors que nous, pas spécialement.
Ouais, il faut être cinéphile, quoi, après.
Oui, voilà, mais après, voilà.
C'est forcément la presse.
Nous, on se place du côté cinéphile, et t'as le côté grand public, et c'est d'ailleurs ce que tend vers la production, que ce soit chinoise, c'est les grosses productions, où faut pas trop réfléchir, voilà, c'est si tu vois, c'est
du B2B. Faut pas trop réfléchir, mais il te balance quand même... Il te balance quand même des messages sur le voilà sur les méchants, c'est des Hongkongais.
Ouais, bien sûr. Ouais.
La police est jamais éclaboussée, il y a pas de flics ripoux, ils se prêtent de l'argent entre eux, ils sont tous sympas et tout. Alors que les gangsters Hongkongais, ils brûlent les billets à la chaîne de pâte.
Après c'est sûr, après c'est. Donc il y a quand même un peu de lavage de cerveau, tu vois.
Voilà, il y a quand même des messages, mais oui, t'as raison. C'est un polar qui fonctionne.
Juste de quel point de vue on se base par rapport au film. Des critères qu'on
après utilise, du coup bah, Junito, même dans les films qui sont appréciés par la critique on va dire ou par les cinéphiles, ce sont des films qui ont très très bien marché aussi au box office à Hong Kong, enfin y compris ses polars. Il y a toute une partie qui sort pas en France, mais ça reste dans tous les cas un cinéaste populaire, quoi. Donc
ouais, mais carrément, ouais. Je suis d'accord. C'était juste un point de vue comme ça,
hein. On est tous d'accord, c'est bien.
Alors on va parler un peu ce qui vous attend sur le mois de février. Tout d'abord, il y a le FAST, le Festival des films d'Asie du Sud transgressif, qui commence le 4 février et qui se termine le 12 février à Paris. Est-ce que quelqu'un veut présenter le festival ? Julien ?
Ce qui est intéressant dans ce festival parisien, c'est que ça met en lumière des cinématographies de pays donc on ne te connaît pas trop forcément, style Bangladesh, Népal. Donc ça a un intérêt certain pour les amateurs de l'Asie du Sud-Est. Après, je ne connais pas trop la sélection.
Pour les cinéphiles curieux, disons.
Voilà, il y a les cinéphiles curieux. Non, mais on y va vraiment pour ceux qui tendent vers la curiosité et la découverte.
Il y a des films de genre aussi cette année, il y a une nuit Fast and
Furious. Frisson et sexe, non, il y a un truc comme ça.
Il y a une nuit Frisson et sexe.
Ah, voilà.
On y sera.
Il y a une nuit sur des films de genre et des films d'horreur.
On peut saluer ce nouveau festival qui a sa seconde édition. Je pense que c'est quand même une belle démarche et Istasia a raison de s'intéresser à ce festival.
Et des partenaires.
Évidemment. Tant qu'à faire.
Le deuxième événement qu'on a sélectionné pour le mois de février, c'est l'absence complète de films asiatiques qui sortent en salle. Donc du coup, on allait voir en projo La Belle et la Bête de Christophe Gans parce que c'était ce qui se rapprochait le plus d'un cinéaste qui s'intéressait à l'Asie. Et quand je dis on, c'est surtout Nicolas. Qu'en as-tu pensé du film de Gans ?
Alors déjà, on peut quand même saluer la démarche. Alors c'est quand même l'un des films français les plus ambitieux, entre guillemets, au niveau technique qu'on a vu depuis longtemps. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des flopées d'effets spéciaux. C'est vraiment une grosse production blockbuster à l'américaine, avec des effets spéciaux nickel, des grosses scènes. Mais le problème, c'est que ça mixte un peu le film de Cocteau et un peu le film de Disney, mais sans forcément en prendre les qualités, quoi.
Dans les deux, je vois pas de grosses scènes hollywoodiennes.
Non, non, mais je veux dire au niveau de la base de l'histoire, puisqu'à la base c'est un conte qui date du Moyen-Âge, donc et qui a été adapté pour je sais pas combien de supports. Ce qui était beau dans la version de Cocteau, c'était toute cette poésie un peu désenchantée qu'on y retrouvait. Là, il n'y a rien, en fait, ça manque un peu d'âme. Et on ne retrouve pas aussi la fantaisie de l'adaptation de Disney. Les objets qui parlent, ils en reprennent un peu les éléments. Il y a pas mal d'éléments fantastiques. Mais ça manque un peu d'âme, quoi. C'est une grosse production, certes très ambitieuse, certes honorable au niveau technique, mais qui manque un peu d'ambition.
Voilà. Comment sont les acteurs?
Vincent Cassel est très bien. Bon, c'est un peu l'acteur un peu bestial. Donc forcément, c'était un peu l'acteur parfait pour incarner la bête. Par contre, la Seydoux, bon, voilà, c'est du lait à Seydoux, quoi. Elle se fout pas à poil.
Oh, bien.
Mais
elle a attention à son profil d'amoureuse, voilà. Quoi.
Bah, c'est même pas ça, c'est que. C'est un peu fat, quoi. C'est un peu...
Après, c'est comment tu es dirigé, quoi. Je suis pas un très bon directeur d'acteur en général.
Ouais, est-ce que c'est un mauvais acteur ou un mauvais acteur?
Mais bon, on peut quand même saluer parce que Christophe Gans, c'est un peu le mec qui essaye de faire quelque chose, enfin, ce qui lui plaît, quoi.
On le défend beaucoup, Christophe Gans, parce qu'il est sympa, parce qu'il est généreux.
C'est un gros cinéphile, quoi.
Parce que c'est un gros cinéphile et qu'il a fait beaucoup de choses pour le cinéma asiatique, d'ailleurs, en France. Mais en tant que cinéaste, il a pas fait un bon film, quoi, dans sa carrière. Et donc, il faudrait des fois se dire.
Bon, ça passe mal la revoyure, quoi. Le coup.
Il est sympa, Christophe Gans, mais c'est un nanar, quoi. C'est un gros nanar.
C'est pour ça qu'on dit les acteurs,
il y a un bon casting
dans le Pacte des Loups et tout le monde joue mal.
D'ailleurs, pour le coup, HK Vidéo Métropolitaine édite Craig Freeman édition collector à l'occasion des sorties, des 10 ans de la sortie en fait.
C'est presque son meilleur film, Craig Freeman.
Moi j'aime bien Silent Hill et le Pacte des Loups aussi.
Oh, putain, non.
Et Craig Freeman, j'aime bien tous ces films finalement.
C'est nanar, quand même.
On fera un podcast sur je pense qu'il le. Ouais, ça peut être intéressant. Et voir aussi ce qu'il a écrit sur le cinéma asiatique, peut-être ce qui est devenu, enfin ce qu'était HK Vidéo à l'époque, ce que c'est devenu. Il y a des trucs assez passionnants à évoquer. Mais on va pas le faire tout de suite parce que lors de la sortie du film, on sera au FICA de Vesoul, donc qui a une programmation spéciale pour les 20 ans que Julien, tu peux nous présenter.
Oui, donc le FICA de Vesoul qui se déroulera du 11 au 18 février dans la charmante ville très glacial de Vesoul, avec une programmation toutefois très alléchante, avec un regard dédié sur le cinéma philippin, donc après le cinéma indonésien que j'ai découvert, vraiment excellentissime, donc j'en attends. J'ai de sérieuses... j'espère que ça va être du même acabit en tout cas, avec des longs métrages en compétition qui sont aussi très intéressants, qui ont été primés un petit partout dans le monde. Je pense à 10 minutes qui a été primé à Busan. Oui, Victor.
C'est vrai.
On aura aussi une carte des 20 ans, donc comme tu disais en introduction, avec pas mal de chefs-d'œuvre historiques, avec du Kurosawa, du Kim Ki-duk. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'il y a l'Hirondelle d'Or aussi. Il y a pas mal de films. Il y a aussi des films qui, pour la première fois, seront projetés en restauration. Donc ce sera intéressant de voir ça. Il y aura aussi un focus dans la partie francophonie avec le Vietnam.
Exactement.
Ouais, tout à fait. Et je crois que c'est tout. Il y a évidemment la section documentaire. Et cette fois, on sera en nombre 3 du côté d'Istasia avec un gros programme.
Donc, on fera de toute façon un podcast dédié au FICA de Vesoul. Alors, on va faire un dernier tour de table avec une question. Est-ce que vous avez un conseil cinématographique non asiatique d'un film qui peut être actuellement à l'affiche ou que vous avez découvert ce mois-ci au mois de janvier? Julien, vas-y.
Bon, je vais laisser le film qu'on a discuté avec Jérémy tout à l'heure, parce qu'il a aussi beaucoup, beaucoup apprécié. Moi, je citerai R de Tobias Lindholm et de l'autre réalisateur dont je ne me souviens pas le nom, qui est en fait un ancien film qui date de 2010, donc par le réalisateur ou le scénariste de Borgen, je crois. Ouais. Voilà. Et qui est vraiment très bien, surtout par son ambiance, vraiment très pesante dans les prisons danoises, avec tout un trafic entre deux ailes de prison de drogue, où ils font passer la drogue par un certain système. Et c'est vraiment toute cette ambiance vraiment, vraiment extrêmement pesante et étouffante qui fait la force du film et que j'ai beaucoup aimé. Donc je vous le conseille à
Nicolas.
Non, je voulais juste rebondir un peu. Moi, j'ai bien aimé le film. Je trouve que tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais j'ai un problème avec le cinéaste cinéaste danois, c'est que je trouve qu'il manque un peu de personnalité. J'ai l'impression qu'ils reprennent un peu les grands classiques du cinéma danois sans forcément y apporter leurs pattes.
Ouais, je ne voyais pas comme ça l'argument. Enfin, je voyais plutôt qu'ils refaisaient un petit peu toujours le même film. Voilà, genre Nord-Ouest, c'était un petit peu la même chose.
Voilà, mais
c'est pour ça que c'est toujours des bons films sans être...
Des anciens films un peu danois qui avaient eu du succès. Et voilà.
Mais j'aime beaucoup le cinéma nordique. C'est pour ça que je pense que ponctuellement, c'est intéressant d'aller de ce côté cette cinématographie. Quoi. Mais il ne faudrait pas que ça fasse comme les blockbusters américains. Toutes les semaines.
Ouais, je trouvais qu'il y avait le côté multiculturel qu'on voit pas forcément d'habitude dans les sociétés danoises, qu'on voit bien dans le film, donc avec les deux communautés séparées, les musulmans des deux sections de
J'ai pas l'impression d'avoir vu ça tant de fois dans des
films. Dans North Dust, il y avait déjà ça. Enfin, l'un des personnages, c'est le même. D'ailleurs, c'est le même acteur qui joue. Je sais plus comment il s'appelle, mais il y a déjà ce côté-là, multiculturel un peu.
J'ai pas eu tant de fois que ça. C'est le même acteur que Hijacking ou si.
Ouais, Hijacking.
Il reprend exactement les mêmes acteurs que les deux autres films des deux réalisateurs.
Moi, je voulais faire un tour de table rapide, mais c'est pendant 10 minutes chaque film. Honnêtement, on va jamais finir.
Non, mais moi, on a trouvé 3 fois le même film, tu vois. Peut-être que.
Jérémy, est-ce que tu as un autre film à.
Ouais, bah, je vais rester au Danemark aussi, avec Nymphomaniac de Lars von Trier, que j'ai trouvé, au-delà de la polémique qui est un peu provoquée par le réalisateur aussi, que j'ai trouvé vraiment magnifique dans son portrait de femme, tout simplement. C'est un beau portrait de femme. On n'a pas l'habitude d'aborder la sexualité féminine de cette manière-là au cinéma, et j'ai trouvé ça assez percutant et très émouvant aussi, bizarrement. Et toute la relation, c'est un peu gros le complexe d'Oedipe, tout ça, mais ça fonctionne parce que tous les acteurs sont excellents. C'est un cinéma érudit et en même temps, techniquement, c'est assez. Tu t'aimes pas trop techniquement, toi, Nicolas. T'avais eu des réserves, mais moi, je trouve que ça fonctionne à plein régime.
Non, c'est même pas ça.
Il y a un petit côté, je sais pas, c'est très intelligent.
Gros problème, c'était en fait de passer de. Donc, la jeune actrice, je sais plus comment elle s'appelle.
Moi non plus.
À Charlotte Gainsbourg, je trouve que c'est pas du tout la même personnalité. Enfin, je trouve qu'on passe de deux personnages complètement différents. Ah, peut-être. Alors, après, peut-être que la deuxième.
C'est un aspect. Il y a un aspect grand roman, quoi. Elle raconte son histoire. Elle raconte son histoire a posteriori à un mec, on ne sait pas trop qui c'est, etc. Je trouve ça. Rien que cette structure en flashback, c'est intéressant. C'est super ambitieux, quoi, dans la forme. Après, j'aurais bien voulu avoir le film d'une traite.
Ouais, moi aussi. C'est une grande frustration.
Voilà, non censuré. Limite, on censurait ou pas, non, mais vraiment.
La première séquence, c'est un chef-d'œuvre de. Enfin, elle est magnifique, quoi. Le montage, l'ambiance sonore, le cadre.
Il y a des trucs, c'est super effrayant, en fait.
Ouais, c'est super effrayant aussi.
Moi, il y a une scène qui m'a beaucoup marqué, c'est quand Christian Slater est dans son lit de mort et qu'il y a un silence de mort, et d'un coup il se met à hurler, mais c'est le truc qui m'a fait, ça m'a fait penser au plan de Laura Dern dans Inland Empire, le truc qui m'avait marqué pendant 15 ans, quoi. Donc là c'est pareil, c'est vraiment des plans super effrayants, et c'est un film qui marque vraiment, quoi.
J'avais beaucoup aimé aussi sa démarche scientifique d'expliquer les
choses. Oui, voilà, c'est ça. Vraiment, il y a tout un
côté ludique avec l'association à la pêche.
C'est un film érudit et en même temps, c'est un film ludique.
Et qui apporte un peu d'humour, justement.
Et voilà, c'est très drôle, c'est très drôle.
Flavien, t'as un conseil à
conseiller Nymphomaniac, oui. Moi, en fait, j'aurais conseillé, mais je sais pas, peut-être qu'il est encore en salle. C'est un film, je crois qu'il est belge, néerlandais. Danois, qui s'appelle Borgman. Je ne sais pas si vous entendez parler.
Il a été présenté à Cannes, il a été beaucoup divisé.
Il a eu aucun prix et tout. Et vraiment, c'est très particulier, mais je conseille, quoi. C'est vraiment particulier dans le bon sens. Ouvert d'esprit, parce qu'on ne sait pas qui est ce personnage de Borgman qui s'introduit dans une famille un peu bourgeoise, plutôt aisée, une famille un peu qui vit dans une maison Ikea.
C'est un
théorème
un peu, non,
de
Pasolini, je sais pas si.
Ouais, il y a un peu de ça, mais. Enfin voilà, c'est vraiment unique, enfin, c'est nordique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de l'humour noir dedans, et qui fait passer plein de messages dessous par rapport à la tolérance, à l'ouverture des autres, enfin des classes aisées vers les autres, vers les classes plus basses. Mais tout en mêlant en fait un côté fantastique, mais dans un milieu complètement réel, en fait. Il n'y a pas vraiment d'artifice, d'effets spéciaux fantastiques hallucinants, quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a bien marqué, quoi.
Ça laisse pas indifférent.
Ouais.
Marc, tu as un film à conseiller ?
Pas un film, mais un livre. William Friedkin a sorti ses mémoires il y a quelques mois, donc. Ça permet de connaître un peu plus le travail de William Friedkin, donc qui est connu pour avoir tourné L'Exorciste et French Connection, et très récemment l'excellent Killer Joe. Donc c'est toujours, c'est très bien écrit, c'est assez drôle. On voit pas mal les coulisses d'Hollywood des années 60-70 et aussi le travail qu'effectuait Friedkin pour tourner ses films. Et très grand réalisateur et très bon livre.
Et je crois que Nicolas, tu avais quelque chose à rajouter comme conseil.
Moi, je voulais juste parler, c'est pas vraiment un conseil en fait, un appel à sortir le film Jodorowsky Dunes, qui est un documentaire sur ce qu'aurait dû être l'adaptation de Dune par Jodorowsky, qui est annoncé comme à l'époque comme ce qui aurait été le plus grand film de science-fiction de tous les temps, et qui a influencé après, même s'il ne s'est pas fait par l'intermédiaire de tout le travail qui a été fait sur ce film, ce qui a influencé des centaines de films de science-fiction qui sont sortis toutes les années suivantes. Donc voilà, c'est un super film très drôle, parce que de toute façon quand on écoute Jodorowsky parler, on se marre forcément. Et voilà, donc j'espère qu'un jour il sortira. Apparemment c'est la femme de Mobius, donc Jean Giraud, qui met son veto, qui empêche la sortie du film. Donc Mobius qui a participé à l'aspect esthétique du film, enfin, qui devait participer à l'aspect esthétique du film.
Il a fait tout le storyboard.
Voilà. Et voilà. Donc j'espère qu'un jour il sortira. Je crois que c'est en ce moment en négociation pour une sortie américaine. Et bon, j'espère que ce sera la même chose pour la France. Ouais. Voilà.
Bien, quant à moi, je conseillerais un film qui s'appelle Rédemption de Miguel Gomez, qu'on a vu au Black Movie. Et le prochain podcast sera consacré au Black Movie. Et je vous expliquerai alors pourquoi je conseille ce film.
Il est sorti en novembre dernier, en salle. En français.
En France.
Dans une salle. Dans une salle, il est sorti.
Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose
très particulier.
J'ai un Spectacular Now, c'est un teen movie, un peu mélange teen movie Sundance, qui est sorti d'ailleurs, qui a été primé à Sundance, là, qui est sorti en début janvier, là, qui est vraiment, vraiment bien. Quoi. C'est une espèce de mélange d'histoire à la Pygmalion avec un ado un peu populaire qui essaie de prendre en main une fille un peu sérieuse, un peu bêcheuse, et puis finalement, on voit le rapport qui s'inverse avec les thèmes un peu plombant sur l'alcoolisme chez les jeunes, chez les adolescents, et puis on voit un peu le rapport s'inverser entre les deux. C'est plutôt bien amené, ça évite pas mal de clichés, pas mal de rebondissements attendus. C'est vraiment bien, ouais. Je crois que c'est encore en salle en ce moment.
Moi je rajouterais juste quelque chose sur ce film qui a ouvert le débat, on va dire, dans son environnement, sur le téléchargement. Avec un article de la productrice, ouais. Je crois, qui reprochait le téléchargement illégal, parce que le film était disponible. En fait, il avait été distribué aux États-Unis, je crois, il y a 4-5 mois.
En mois d'août, c'était sorti.
Voilà, et puis maintenant, il a bénéficié d'une sortie française 6 ou 7 mois plus tard, donc il est déjà disponible en téléchargement illégal sur Internet. Mmh. Et il y avait un gros coup de gueule de la productrice, comme quoi c'était vraiment une honte de la part des jeunes qui ne comprenaient pas, en fait, l'attrait des petits films indépendants qui sortaient en salle, et que c'était vraiment un énorme coup de frein, le piratage illégal.
C'est pas des films comme ça qu'il faut télécharger, quoi. Voilà.
Les gens disaient ok pour les blockbusters, de toute façon ils font leur maille dans les produits dérivés, dans les goodies, dans tout ce qu'il faut, mais les petits films indépendants,
dans les entrées,
faut aller les voir.
Les spectateurs sont à mettre en cause, mais il faut aussi mettre en cause ceux qui sortent les films, quoi, parce qu'ils mettent toujours 7 mois à sortir ça.
Il y a des raisons
pour lesquelles ça sort aussi.
Là, il y en a de plus en plus. Je prends juste un exemple, la suite de Tempête de Boulet Géant qui sort en dernier en France, alors qu'il est sorti cet été aux États-Unis.
C'est un problème systémique, quoi.
Il faudrait modifier ça.
Le premier volet n'avait pas marché en France, donc du coup, c'était une priorité, le Tempête de Boulet Géant.
Parce qu'aux États-Unis, ça avait été un.
Par exemple, pour The Spectacular Now, je crois que c'était 500 000 euros pour avoir les acquisitions des droits français pour la même date de sortie en US. Donc tu vois, c'est gagné, quoi. Si tu perds de l'argent, si tu t'achètes les droits, quoi.
Arrêter de télécharger des petits films, télécharger des blockbusters. Et on parle de petits films la semaine prochaine avec l'édition pour
le podcast sur le. Il y a de Zoo et compte après la mise au bout qui sont sortis.
Absolument. Depuis le 22 janvier.
Donc allez-y, très beau film.
See you, Space Cowboys.